Donc je raconterai que c'est la première conférence de la convention. On va parler du prix Rony et des 8 finalistes, puisque le finaliste sera désigné pendant la convention. Nous avons un panel de journalistes éclairés et éclairants, des professionnels de la critique littéraire, d'un œil avisé. À côté de moi, Philippe Curval, nous avons au milieu François Masson et derrière Dorian. Donc on a 8 livres à examiner ensemble et on va en discuter. 8 livres en une heure, donc autant vous dire qu'il y a un programme qui est plutôt chargé. Il y a des livres qui ont été plutôt connus et reconnus dans la liste, dont on a beaucoup entendu parler, d'autres un petit peu moins.
Tu parles plus près du micro.
D'accord. On va parler un petit peu plus près encore du micro. C'est bon. Peut-être qu'on va pouvoir commencer par l'un des 8 livres, notamment Norbert Merjanian, 13 altitudes, 0 chez De Noël. Alors, ce livre-là fait suite au premier tome, Les Tours de Saramande. C'est une trilogie que nous promet Norbert Merjanian. C'est pour le coup vraiment de la science-fiction. 13 altitudes, 0, c'est une cité particulière, c'est vraiment une ville. On va pouvoir peut-être en discuter. Parmi les critiques, on a vu notamment, alors Philippe Corbin, vous avez écrit qu'il cherche, grâce à la réelle volonté que procure son écriture, à nous transmettre l'immatérielle sensation de basculement dans une création inconciliable avec notre passé. Alors, est-ce que vous avez lu, enfin vous l'avez lu évidemment, qu'est-ce que vous en tenez de ce livre-là? Qu'est-ce qu'il vous a plu?
Bien, à vrai dire, il est évident que c'est un livre extrêmement difficile à aborder, beaucoup plus que le premier. Voilà. Donc c'est un livre beaucoup plus difficile à aborder que le premier parce que tous les éléments du premier se mélangent et composent une fresque extrêmement complexe à déchiffrer. L'intérêt de Norbert Merjanian, c'est justement qu'il cherche à faire basculer les idées convenues de la science-fiction et éviter tout folklore pour réinventer une écriture personnelle. Parce que il faut dire que chez lui, l'écriture est primordiale. C'est à travers l'écrit qui cherche à transmettre des idées différentes. Et c'est tout un art extrêmement complexe qu'il met en place. D'ailleurs, il met très longtemps à écrire ses livres. Et effectivement, dans ce roman, ce deuxième Trace, on voit que la cité est féminine. Et que tout ce qui se rapporte justement au comportement des personnages est toujours basé sur cette sexualité. Et c'est ça qu'on discerne mal si on ne lit pas attentivement le livre. C'est un livre profondément sexuel dans lequel les éléments concourent à amener progressivement le lecteur à ressentir une sorte d'euphorie personnelle par rapport au texte qui lui est livré. Et tout cela grâce à l'écriture. Et je crois que c'est à travers cet immense travail qu'a fait Norbert Merjanian qu'on peut le féliciter d'avoir véritablement inauguré une science-fiction personnelle à part entière qui ne ressemble absolument à aucune autre. Pour moi, il est évident que c'est ce que je recherche dans la science-fiction, des auteurs d'abord et des gens qui ont véritablement un système d'invention tout à fait personnel qui ne se rapporte pas au folklore habituel de la science-fiction. Je sais que la plupart du temps, chacun a vécu son époque, a connu les premiers livres qui l'ont intéressé au moment où ils ont commencé à lire de la science-fiction, et en général s'est fixé sur ces thèmes, sur ces époques de la science-fiction, parce qu'on peut voir à travers les temps les gens évoluer, et on voit les gens, les amateurs de Van Vogt, après on voit les amateurs de Dick, après on voit, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, par exemple, Robert Charles Wilson. Et Norbert Merjanian, lui, échappe complètement à tous ces systèmes qui sont établis. Il a une voix individuelle. Je crois que c'est à travers ça qu'il faut lui reconnaître son intérêt.
Vous parliez de volupté d'écriture.
Volupté de l'écriture, évidemment, mais en même temps, difficulté. C'est-à-dire que quelquefois, bon, je ne dis pas qu'il faut être sadomaso pour lire Merjanian, mais il faut véritablement se prêter aux mots, se prêter aux phrases, se prêter à son écriture pour pouvoir en déguster toutes les péripéties de l'histoire.
Est-ce que l'un de vous deux l'a lu?
Oui.
Alors, ton avis?
Alors, effectivement, j'ai lu aussi ce livre, mais j'avoue que j'ai peu de choses à ajouter à tout ce qui a été dit, si ce n'est peut-être sur l'importance du personnage de la ville. Il y a un travail sur le personnage qui est assez intéressant dans ce roman, qui était amorcé dans Les Tours de Samarante, où on voyait déjà le personnage de Cinabre, ce personnage féminin qui était un peu particulier, qui devient la ville, qui se transforme en la ville, et la ville en elle-même devient une entité pensante à part entière, et une entité qui est biologique. Alors, c'est assez difficile à expliquer sans avoir lu le roman, mais la manière dont l'auteur l'a construit fait qu'on a une nouvelle approche de l'espace urbain en tant qu'espace vraiment pensant. Et c'est assez fascinant à lire.
Bon, on a parlé d'un texte, d'un tome de transition. C'est vraiment le sentiment que vous avez eu.
Oui, il est évident que, après avoir lu le premier Les Tours de Savaran, on a une plongée dans un inconnu intermédiaire par rapport à ce qui est si bien décrit dans le premier volume, d'une manière beaucoup plus précise que dans le second, où c'est plutôt la volupté d'écrire et la volupté de voir cette ville naître et des personnages s'agglutiner autour d'elle et toute la complexité du système qui s'édifie. Et là, je ne sais pas comment Merjanian va aboutir par son troisième volume, mais il est évident que par la suite, il va y avoir une nécessaire remise en place de tous les éléments qu'il a mis depuis le départ afin d'aboutir à quelque chose de parfait dans cette espèce de trilogie qui a des motifs et des différences singulières entre chacun des volumes.
Je t'ai pris le micro entre guillemets.
Non, je me contentais de tenir.
D'accord, très bien. Deuxième roman à examiner ensemble, c'est le roman Les étoiles sans balance de Laurent Wayne qui est là. chez Critique. Alors pour le coup,
on a l'édition.
Oui, on a l'édition de Rivière Blanche. Pour le coup, on change un petit peu véritablement de domaine. Hein. C'est presque un post-apocalyptique, beaucoup plus d'aventure et de rythme. Est-ce qu'il y a l'un ou trois qui l'a lu?
Donc effectivement, Les étoiles sont vraiment, c'est un roman post-apocalyptique, sachant que l'humanité est encore là, on est plutôt dans la catastrophe économique et par ricochet, pas forcément sociale, humaine. On est dans un de ces romans où les hommes sont rassemblés dans des villes où ils se sont organisés pour survivre, avec également une vie à l'extérieur de ces villes, où le personnage principal est un aviateur. Donc son rôle, c'est d'assurer la correspondance entre les différentes villes. Évidemment, c'est pas si simple que ça, et on est dans un roman d'aventure qui est extrêmement rythmé, extrêmement intéressant. L'écriture est plutôt nerveuse, il y a beaucoup de rebondissements. C'est un roman de distraction, mais qui a en plus le mérite d'être bien écrit. Il y a de la recherche au niveau des personnages. On est dans une littérature de loisirs où néanmoins il y a beaucoup de fond en matière de réflexion sociale. Alors, on a au début d'un certain nombre de chapitres des passages journalistiques, des choses qui expliquent un petit peu comment on en est arrivé là et qui laissent une grande marge de liberté d'interprétation lecteur tout en orientant quand même les origines, enfin la réflexion qu'on peut avoir sur les origines des événements qui ont mené à cet état de fait. Mais Les étoiles sans balance, ça reste un roman d'aventure où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Les événements s'enchaînent et ça rebondit sans arrêt. La fin est relativement inattendue en fin de compte, puisqu'il y a un basculement vraiment dans les derniers chapitres, que je ne vous dévoilerai pas, mais on est dans de l'aventure.
Est-ce que l'un de vous l'a lu également?
Non, je n'ai pas eu cette chance, moi. Mais bon, connaissant l'auteur et le titre, je vois à peu près qu'effectivement ça doit bien balancer.
Non, c'est vrai, je n'ai pas lu personnellement celui-là, mais j'ai lu d'autres romans de Laurent Wall, et il est évident qu'il y a chez lui une ardeur de l'écriture qui est absolument intéressante, parce qu'il y a le goût de transporter le lecteur à travers une histoire, et c'est surtout cette espèce de travail de profond et systématique pour essayer de bâtir une histoire à partir d'un rythme extrêmement rapide dans lequel le lecteur ne se laisse jamais tomber, qui est intéressant chez Laurent Wallon.
Tu y mets de l'ardeur, Laurent ?
Ouais.
Oui. Alors du coup, l'avantage d'une convention, c'est qu'on peut se faire corrompre hein, pour le coup d'ironie, évidemment. Et parmi les éléments de corruption, on conseillera la poire, la colle de poire de Marie. Hein ?
Et l'abricot aussi.
Et l'abricot aussi. C'est intéressant, je viens de goûter la poire. Très bien, vous pouvez y aller. Autre roman, on reste dans l'aventure, c'est Thomas Gérard avec La guerre des chiffonneurs.
On l'a pas en vitrine.
On l'a pas en vitrine, exact. Là, pour le coup, on est vraiment dans du space opéra.
C'est chez Rivière Blanche aussi.
L'aventure.
Ouais, ça ressemble à ça. Voilà.
Fred, tu l'as pas par hasard ?
Là, personne.
La guerre des chiffonneurs, Thomas Gérard. Non, notre libraire ne l'a pas. Est-ce que l'un de vous trois a lu ce roman ?
Oui, on peut dire qu'on a encore une histoire d'aventure. Hein, avec un space opéra qui est assez rythmé, où on tourne les pages pour connaître la suite. Hein, le suspense est le moteur principal, donc c'est un roman d'aventure, avec un titre qui accroche, puisque évidemment, au chiffonneur, on voit un univers qui n'est pas spécialement du space opéra, dont on apprend très vite qu'il s'agit en fait d'un moteur pour voyager entre les dimensions, qui est le seul moyen dans un space opéra un peu post-apocalyptique en fait, puisqu'on imagine qu'il y a eu un empire qui a été un empire humain hein, qui s'est débité suite à une guerre contre une autre civilisation non humaine, et qu'ensuite ben, les planètes qui restent font avec le rafistolage qu'elles peuvent faire et la récupération du matériel qui est le reste de cette technologie qu'on a perdue, dont le moyen de transport, en gros c'est une sorte de moyen pour voyager jusqu'à la lumière quoi, qui est le seul moyen justement pour désenclaver les planètes et s'affranchir de la vitesse de la lumière. Et il n'y en a pas beaucoup, la technologie s'est perdue et donc c'est un enjeu. Et on est du point de vue d'un personnage qui a longtemps été parmi, qui a été élevé par un peuple qui est dur à la peine on va dire, et qui s'est fait profession en gros de pirater les principaux détenteurs de ce moteur supraluminique et qui se trouve embringué évidemment dans une histoire qui dépasse un petit peu quoi. Et évidemment ça serait dommage d'en dire un peu trop.
Est-ce que l'un de vous deux a lu le roman ?
Oui.
Ton avis ?
Ben, vous complétez un petit peu ce qu'a dit François. C'est effectivement un roman d'aventure où ça rebondit tout le temps, mais on est vraiment dans de l'aventure où finalement bah, le pourquoi du comment c'est pas ça le plus important. L'important c'est qu'il y a de l'action tout le temps. On est dans du space-up un petit peu à l'ancienne dans l'idée qu'on peut avoir du roman des années 70 où on avait des gros vaisseaux spatiaux qui se tiraient les uns sur les autres avec des personnages de méchants, très très méchants, des personnages de un personnage féminin, parce qu'on n'a pas beaucoup, un petit peu caricatural, qui est la prostituée, l'infomane ancienne, enfin, on est dans une certaine vision de la SF qu'on trouve plus énormément aujourd'hui, mais qui rappelle un tas de choses qu'on a pu lire par ailleurs. C'est aussi le cas du personnage de l'acolyte du narrateur, qui est une espèce d'homme-chat, qui se sent obligé de rappeler régulièrement qu'il n'est pas un animal de compagnie, qu'il est aussi un être pensant à part entière, voilà, un petit peu un Wookie, mais qui articule un peu mieux. On est dans ce registre-là. On est vraiment dans quelque chose où l'idée, ben voilà, c'est de tourner les pages, puis d'aller voir jusqu'à quand on va se tirer dessus, est-ce que les prisonniers vont être libérés ? Forcément, ils vont être libérés. Qui est le méchant ? Que va-t-il lui arriver ? Donc, quelque chose de pur distraction.
Mais il joue justement avec ces clichés de SF Space Up. De la grande époque, parce que le vaisseau spatial des personnages principaux il s'appelle le vieux lapin, le vieux méchoui lapin rose, et c'est une espèce de truc évidemment qui est poussif comme on peut l'imaginer. Enfin, à chaque fois c'est toujours un peu décalé, quoi. Donc il s'amuse évidemment avec les clichés du space opera traditionnel, hein. Ce qui fait que c'est assez jubilatoire aussi, parce que évidemment on cherche pas, c'est pas la hard science, quoi, mais en même temps il y a ce côté décalé qui fait que on lit pas que pour l'histoire. Quoi. Mais aussi parce qu'on se marre.
Il y a une prostituée nymphomane à l'ancienne.
Oui, voilà.
Quand même.
Bah, elle n'est pas que à l'ancienne parce que bon, elle a un truc particulier en plus. Mais...
Un animal de
Philippe.
Non.
Alors, autre roman à soumettre à notre sagacité, c'est La Chute, Léviathan, le tome 1 de Lionel Davout, qui est donc aux éditions Don Quichotte. Alors là, pour le coup, on passe vraiment dans le cadre du thriller, hein, puisqu'on a un personnage qui est pourchassé, qui en même temps, il a des mystères à dévoiler. Est-ce que l'un de vous trois l'a lu ?
Ouais.
Lauriane, vas-y.
Alors, en fait, c'est, effectivement, là, on est dans un univers, clairement, ça ressemble à notre présent. Et on a un biologiste océanographe qui a la phobie de la mer parce que quand il était petit, le navire Costa sur lequel se trouvait sa famille en quelque sorte fait naufrage et ses parents sont morts sous ses yeux. Et depuis, dès qu'il s'agit un petit peu de l'océan, c'est un peu la panique. Donc le voilà embringué pour une mission dans l'Arctique. Il a accepté d'accomplir, alors jusqu'à présent il n'est jamais allé sur le terrain, si bien qu'évidemment, non seulement ça a froissé le collègue qui pensait obtenir la bourse pour y aller, qui lui est souvent sur le terrain, mais en plus, ça inquiète tout le monde, parce que même si ce n'est pas vanté de sa phobie, bien évidemment, les plus proches collaborateurs de sa famille savent bien que dès qu'il s'agit d'approcher du rivage, les plus bons à rien. Quoi. Donc qu'est-ce qu'il va en être ? Donc il va devoir aller prélever des échantillons à bord d'un Zodiac, dans une mer déchaînée, voilà. Et puis évidemment, à côté de ça, il a des rêves, plutôt des cauchemars hein, qui le poursuivent, hein, qui ne font rien pour améliorer évidemment son ambiance, son attitude. Et le début du roman est assez lent, hein, c'est à mon avis le principal défaut qu'on peut lui trouver, hein, j'en avais déjà parlé avec Lionel. C'est la mise en place, hein, et en même temps ça permet de bien s'attacher aux personnages principaux, en particulier au personnage principal. Et ensuite, évidemment, dès qu'il se retrouve dans la mission à proprement parler, des choses sérieuses commencent. Mais à la fin de ce premier tome, on n'en a pas encore une idée très claire. On a d'ailleurs un deuxième film narratif qui s'intercale assez vite en parallèle et qui nous plonge dans un univers beaucoup plus ensoleillé et chaud, on va dire, qui n'est pas du tout le même, et qui nous place dans un contexte de conspiration, d'histoire secrète et de secrets terrifiants que le personnage principal est susceptible de révéler. C'est pourquoi il y a des forces en présence qui cherchent à intervenir, et du coup la mission entière devient un enjeu pour pas mal de forces qu'on ne connaît pas encore bien à l'issue de ce premier volume. Et je crois qu'il va y en avoir deux autres ou trois, je ne sais pas si c'est une trilogie, ou peut-être quatre, je ne sais plus. Une trilogie en quatre volumes, c'est comme les Trois Mousquetaires, ça, c'est un truc connu, ça c'est pas dit.
Mais alors le problème est de savoir si... étant donné le prix Rony au premier volume des Trois Mousquetaires, ou à 20 ans après.
Ouais. Et je parle pas du retour des comptes de Brajlon. Voilà, bon, Brajlon.
Tu voulais pas dire quelque chose sur le bouquin ?
Non, j'ai sauté. Bon.
Sur le bouquin, non ?
Alors, autre roman à examiner, c'est Thierry Duro avec Mandouine. Au Bélial, alors on l'a pas sur la table. Pour vous faire simple, c'est Thierry Durolo qui se met à la fantasy. Alors évidemment, ça
c'est pas simple.
C'est pas simple. Ça arrache un peu du slip, ça reste du Thierry Durolo. Est-ce que l'un de vous trois l'a lu ? Et qu'en avez-vous pensé ? Alors rien.
Alors c'est un petit moment que j'ai lu. Par contre. Effectivement, comme tu le disais, Jérôme, c'est du Thierry Diro. Alors, pour aller rapidement, pour ceux qui n'ont peut-être jamais rien vu de lui, on est dans un univers tragique, dans le sens où il n'y a aucun espoir. C'est extrêmement noir, mais là, il y a une petite touche de couleur, dans le sens où on est sur Vendrine, qui est un univers noir et mauve, puisque le ciel a une couleur mauve. Le personnage principal est un parapluie dont on ne sait pas trop de choses en fin de compte, si ce n'est qu'il a la particularité de voir la mort corrompre les gens qu'il rencontre. Ce qui fait qu'il n'hésite pas, quand il croise quelqu'un qui aurait une mort particulièrement douloureuse ou violente, à l'achever tout de suite pour éviter qu'il ne souffre par la suite. À côté de ça, on a un océan dans lequel on a une espèce de peuple minier qui est exploité par d'autres. On est dans quelque chose de très très noir, où de temps en temps, on a une petite touche d'espoir. Il y a un personnage de jeune garçon, par exemple, qui va apparaître et qui va suivre ce barrage par la suite, et qui va donner un petit peu de lumière à tout ça. On est dans quelque chose qui peut sembler extrêmement sombre, extrêmement déprimant, mais où, en fin de compte, on a une bonne partie des éléments qu'on a dans la tragédie classique. Ce qui fait que même si c'est un texte très moderne pour cette façon qu'il a d'apporter des détails ténus dans la tragédie, on est aussi dans quelque chose de très classique à la fois.
En ce qui me concerne, l'impression que ça m'a laissé, c'était pas seulement que c'était si noir, parce que bon, c'est effectivement Thierry Di Rollo, là il a mis un petit peu de mauve hein, dans son noir, hein, donc par rapport à d'autres romans, on respire un peu plus, et puis on retrouve des grands espaces, donc, pas forcément dans les romans précédents, mais ces grands espaces, c'est une sorte d'univers flou, ouaté, brouille, c'est de la brume, c'est du brouillard, c'est de la neige, c'est un univers hostile, mais en même temps, pas complètement transparent, opaque, un peu, voilà. Et ce qui fait aussi le tragique de l'histoire, c'est que le personnage principal, c'est le dernier de son espèce en quelque sorte. Il n'y en a pas d'autre, c'est la fin d'un monde, on pourrait même dire la fin d'une ère, au sens géologique. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça respire pas l'allégresse. Hein. Et comme toujours, enfin, on a l'impression que en fait, Thierry Di Rollo fait avec la science-fiction, la fantasy, ce que d'autres écrivains font en littérature générale. C'est-à-dire qu'en réalité, il parle de l'absurdité du monde. C'est pas la fantasy qui l'intéresse. Le décor de fantasy qu'il pourrait y avoir, il n'y a pas de décor. C'est un décor, comme je disais, qui est très, très ouaté, très, très brumeux. Il n'y a pas d'héroïsme au sens d'heroic fantasy, il n'y a pas de quête au sens, puisque de toute façon, quoi qu'il fasse, voilà. Hein. Donc en réalité, voilà, c'est l'absurde. Quoi. On est dans. Voilà, c'est l'absurde version fantasy, dark fantasy. Quoi.
Et alors, est-ce que c'est un roman qu'on pourrait conseiller à lire?
Parce que là, bien sûr qu'on peut le conseiller à lire, sauf pour les dépressifs, pas s'abstenir. Pour ceux qui recherchent des choses qui sont pleines de bruit, de fureur et de couleurs, après, c'est sûr que Thierry Di Rollo sait écrire, il a une belle écriture, le style est vraiment millimétré. Hein. Il y a des images, il y a des sensations, il y a des émotions. On a une histoire aussi avec des personnages. Donc voilà, c'est un bon roman, quoi. Ça, il n'y a pas de problème. Simplement, je pense que c'est le genre de roman on aime ou on n'aime pas. Voilà, il n'y a pas de juste milieu. Quoi. Il y en a qui vont rentrer dedans, il y en a qui vont pas pouvoir. Où on va le lire en appréciant la beauté de l'écriture, l'univers, l'imagination, l'originalité. Ça ne veut pas dire pourtant qu'on va aimer. Voilà. Après, ça va dépendre vraiment des goûts.
Puis, quelque chose à rajouter
C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas lu ce dernier roman, mais enfin, si on connaît bien Thierry Di Rollo, on se rend compte que finalement, ce qu'il écrit, c'est de l'autofiction. Parce que finalement, on est complètement dans son univers. Et c'est un personnage qui est à la fois très attachant, et je crois que c'est pour ça qu'on aime ses romans, si on le connaît, et qu'on arrive à percevoir pourquoi il écrit tel type de roman, c'est qu'il est à la fois complètement, extrêmement chaleureux lorsqu'on le rencontre, quand on le fait émerger de ses ténèbres, mais que dès qu'on le quitte, on a l'impression qu'il va se refermer à l'intérieur de ses ténèbres propres. Et ces ténèbres propres lui servent de moteur à l'écriture. Et finalement, ce qu'on peut reconnaître avant tout chez lui, c'est d'être un écrivain à part entière, qu'il soit écrivain de science-fiction ou de n'importe quoi d'autre. Donc là, évidemment, il a choisi plutôt le domaine de l'ASF, mais enfin une ASF très personnelle, qui, dans lequel il émerge des ténèbres progressives de la civilisation pour affleurer à quelques états du monde qu'il entrevoit. Parce que c'est vraiment quelqu'un de profondément replié au fond de lui-même, et son roman, c'est vraiment sa façon d'émerger au monde. Et c'est à travers ça qu'on peut ressentir véritablement un écrivain et peut avoir, si on y prête attention, avoir retrouvé sa sensibilité personnelle qui, à mon avis, mérite véritablement l'attention.
Voilà pour Thierry Di Rollo. On va s'intéresser à Anne Lagnès et l'ardoise magique aux éditions du Souffle du Rêve, dernier livre des éditions du Souffle du Rêve. Est-ce que l'un d'entre vous trois l'a lu? On parle notamment d'une découverte au fond d'un océan océanique de bactéries qui semblent immortelles et qui pourraient tout bouleverser.
J'ai manqué la fin de la phrase.
C'est pas grave, dis-nous ce que tu en as pensé.
Alors, c'est un roman qui est très différent des autres, qui est même très différent de ce qu'on peut lire en SF à l'heure actuelle, dans la mesure où l'élément science-fictif est extrêmement ténu. On est dans un futur très proche, dans un milieu intellectuel parisien, avec des journalistes, des universitaires, qui se réunissent, enfin, qui vivent leur vie. Et puis, il y a une information qui apparaît, qui effectivement est celle de l'existence d'une nouvelle forme de vie dans les fonds marins qui serait immortelle, donc qui ouvrirait tout un horizon, tout un tas d'espoir à ceux qui la découvrent et qui pourraient l'exploiter. Or ici, on est vraiment du côté des journalistes, on n'est pas du côté des scientifiques, ce qui est assez inhabituel en fin de compte dans ce type d'histoire, et puis on voit évoluer les personnages à côté, dans leur vie familiale, privée, dans une écriture qui m'a beaucoup rappelé celle d'auteurs comme le nouveau roman, comme Rob Brillier, avec des choses où l'action n'est pas au cœur vraiment de l'histoire, mais c'est bien l'évolution des personnages et puis l'écho qu'il y aura entre leur vie personnelle et les découvertes qui sont faites. Par exemple, on a d'un côté cette idée d'immortalité à travers ces créatures océaniques, et puis de l'autre, un couple un petit peu en crise autour d'une histoire d'enfant que la femme voudrait, mais pas le mari. On se retrouve dans une ambiance à Venise où là, on n'est pas dans du nouveau roman, mais il y a vraiment des éléments qui le rappellent.
Moi, j'ai noté, dans une des critiques, une incitation véritablement à la réflexion.
Oui. Oui, c'est ça, c'est une invitation à la réflexion. D'autant plus qu'il y a énormément de dialogues. C'est un roman qui aurait presque pu être théâtral, vu qu'on est sans arrêt dans les échanges des personnages les uns avec les autres, ou bien dans des moments où ils se lisent mutuellement des articles écrits pour des publications futures.
Est-ce que l'un de vous deux l'a lu ?
Non, moi je n'ai pas lu.
On va. Il nous reste deux romans à examiner, et pas des moindres. Le premier, c'est celui d'Eric Holstein, Thor et d'Emeraude, une uchronie là aussi très personnelle qui se passe en Amérique du Sud avec trois récits, trois époques. Est-ce que l'un d'entre vous l'a lu ? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous dire quelque chose ?
Oui, c'est un livre plutôt intéressant dans sa construction, qui est en trois parties et qui à chaque fois nous déplace. Une première partie qui ressemble à un roman, effectivement, un peu une sorte de roman personnel, quoi, qui est très proche de ce qu'a vécu Eric lorsqu'il a adopté, je pense, hein, c'est de ça qu'il s'est inspiré quand il était là-bas. Et avec un personnage qui est donc qui a été adopté, qui vient de l'Amérique latine, hein, et qui s'est toujours senti français jusqu'à ce qu'on n'arrête pas de lui rabâcher, qu'il devrait quand même, maintenant qu'il est majeur, peut-être se poser des questions sur son origine et tout, alors que jusqu'à présent, ça ne posait pas vraiment de problème. Enfin voilà, il finit donc par décider d'obéir en quelque sorte à cette pression de son entourage et par se rendre sur le lieu de son adoption. Et puis là, il met progressivement à jour justement le passé, hein, de sa famille. Et donc on a une première partie qui est assez roman contemporain dans notre présent. Et la deuxième partie nous projette à l'époque de la conquête espagnole ou portugaise, avec des personnages dont on a entrevu le nom dans la première partie, puisqu'ils ont été, ils ont servi de référence à d'autres personnages, hein, ça fait partie du passé, hein, du patrimoine. Et on bascule dans du roman historique en quelque sorte, mais en même temps roman d'aventure avec de l'exotisme, une culture qui ne nous est pas familière, hein, etc. Dans une troisième partie, on renoue avec notre personnage principal et un présent, sauf qu'on n'est plus dans notre réalité, quoi. On est dans une uchronie. Donc il y a vraiment un basculement qui s'est fait. Et outre la construction, l'histoire est assez intéressante et originale, et ça nous projette dans une culture d'Amérique latine qui ne nous est pas familière, même si ça commence à venir en science-fiction. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment intéressant.
Lauriane, Philippe.
Personnellement, bon, je n'ai pas lu non plus ce roman d'Eric Holstein. Ce qui m'intéresse chez lui, c'est une vivacité d'écriture aussi, qui est assez percutante et quelques idées tout à fait extraordinaires. Et il est évident que dans ce roman tel qu'on vient de nous le présenter, il y a cette espèce de mélange et cette apparition du personnage lui-même à l'intérieur de son roman qui prouve qu'il est en train de passer à un nouveau, une nouvelle étape de l'écriture. Parce que jusqu'à présent, il faut bien dire que c'était surtout des romans d'aventure riches en épisodes extrêmement foisonnants. Et là, tout d'un coup, il semblerait qu'à la suite de plusieurs réflexions, de plusieurs livres parus, il ait besoin de revenir sur lui-même et de trouver quelle est la véritable nécessité de son écriture. Et donc, peut-être est-ce le premier roman qui va amener d'autres dans lesquels il intégrera à la fois cette vision personnelle de la vie qui semblerait s'exposer dans ce premier épisode. Et puis, peut-être après, va-t-il arriver à fusionner l'ensemble et donner à ces romans qui sont d'une excellente qualité, mais qui ne sont un peu interchangeables. C'est-à-dire que vraiment, on a de bons romans de vente courante. Et là, je crois que là, il est en train de passer à la fonction suivante, qui est celle de l'écrivain, qui enfin se retrouve et va savoir pourquoi il écrit.
Si je puis me permettre, pour apporter de l'eau au moulin de Philippe, c'est qu'effectivement, je ne l'ai pas dit, mais dans la troisième partie, c'est l'occasion vraiment d'amener une réflexion politique, justement. Il y a une critique sociale, et l'Uchronie n'est pas gratuite, quoi. C'est comme souvent d'ailleurs dans une Uchronie, hein, il y a une démarche de réflexion sur l'histoire, sur la réalité, sur le présent, sur la société. Et donc, de ce point de vue-là, il y a vraiment un fil entre l'individu perdu au milieu de la vie de tous les jours et de ses concitoyens qui deviendrait une sorte d'être élu exceptionnel du mythe, de la légende, d'un passé idéalisé et en même temps qui permet peut-être de changer ce qui ne va pas dans la société, non pas comme un héros de roman d'aventure, mais par le biais des réflexions et de la critique qu'il va amener et dans son propre esprit, et dans l'esprit du lecteur, bien sûr, qui le suit.
Jean-Yann, ton avis ?
Oui, non, j'ai un avis, c'est un mot que je reconnais en plus, mais effectivement, je rejoins ce qui a été dit, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce moment, c'est vraiment sa construction. On a trois parties bien distinctes qui appartiennent à trois genres bien distincts, et l'association marche parfaitement. Tout est complémentaire. Tout se tient, on a l'impression, même si on sent qu'il y a quelque chose de pas très net au début, d'être dans quelque chose de purement réaliste, c'est la quête de soi-même, c'est les origines, où est-ce que je viens, ma copine m'agace, ouais, bah, je vais en Colombie, puis je me casse les pieds. La deuxième partie, là, on est vraiment dans quelque chose d'historique, de très documenté, d'extrêmement intéressant, où apparaît encore cet élément irréel. Et la troisième, on est dans de la pure chronie, oui, on est dans quelque chose d'engagé, avec des rebondissements, avec l'atmosphère de la Colombie actuelle, malgré l'élément chronique. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment ça qui fait la particularité de ce roman.
C'est bon. Alors, notre dernier roman à examiner, c'est Rêve de gloire de Roland Wagner. Évidemment, il y a beaucoup à en dire. Évidemment, c'est un petit peu compliqué d'en parler tout de suite maintenant, puisque malheureusement, il nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Un de ses romans, si ce n'est peut-être le plus ambitieux de Roland, vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Philippe, peut-être ?
Ce qui est extraordinaire dans Rêve de gloire, c'est que c'est à la fois son roman le plus ambitieux. Et un roman qui ne répond absolument pas à tout ce qu'il a écrit auparavant. Personnellement, donc, j'ai connu Roland Wagner très très tôt, puisque je l'ai connu à 14 ans, et qu'il est venu chez moi un jour, alors qu'il était très ami avec Christine Renard et Claude Chénis, et donc nous avons eu des rapports très, très intimes extrêmement rapidement. Par la suite, je dois dire que je n'ai jamais été persuadé de sa possibilité d'écrire. Parce qu'il faut bien dire que j'ai relu quelques critiques des premiers romans qu'il avait faits. Donc c'était avant tout beaucoup d'imitations. C'était quelqu'un qui était imprégné de science-fiction, un fou, un passionné, un délirant de la science-fiction qu'il avait imprégné jusqu'en jusqu'en lui-même, c'était vraiment un être de science-fiction. Et puis, petit à petit, donc, quand il est arrivé dans la série de son personnage de Thème, là, tout d'un coup, on a vu quelque chose de surgir en lui. C'est-à-dire que cette espèce de personnage de cartoons qu'il a inventé, et qui est tout à fait un peu la façon dont on le voyait, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui flottait un peu à la surface des choses, et on le sentait vraiment complètement en rapport avec ses romans extrêmement astucieux. En plus, il avait, au cours d'un déjeuner du lundi, rencontré Léo Mallet, et donc, puisque Léo Mallet est venu pendant un certain nombre d'années, et donc ils ont eu tout de suite une affection qui s'est liée entre eux, et qu'il y a eu un rapport, et à partir de là, donc, il a pensé à ces nouveaux mystères de Paris, qui l'a véritablement ému, et il est arrivé à passer à un autre domaine de son écriture. En même temps, il faut bien dire qu'il avait réussi, sous le nom de Red Def, et là je l'avais absolument stupéfait, parce qu'il a jamais il avait pensé que quelqu'un découvrirait son pseudonyme. Bon, il est évident que pétri de marijuana, il n'était pas possible de ne pas découvrir que c'était lui qui avait écrit ce roman de Red Def, dans lequel il avait preuve d'une imagination extraordinaire que jusqu'à présent il n'avait pas tellement exploité. Et j'avoue que je l'ai beaucoup encouragé à l'époque à écrire ces romans qui étaient vraiment pleins de talent, parce que moi j'ai des réticences vis-à-vis du space opéra, mais vraiment chez Roland, les romans de Red Def sont vraiment des romans très originaux, avec plein d'idées, une explosion, une germination qui est vraiment
étonnante. Ouais, c'était des années 80, ça.
Oui, c'est ça.
Les années 80.
Et puis donc là, après, c'est passé donc la suite de répétitions de ce fameux mystère qu'il a continué à écrire. Donc certainement, on a tous éprouvé le plaisir de les lire. Et cette espèce de recul qu'il a eu tout d'un coup de se plonger, un peu comme je disais tout à l'heure, dans sa propre existence. Donc là, tout d'un coup, il a voulu traduire à travers un roman de spéculation, parce qu'on ne peut pas dire véritablement que Rêve de gloire est un roman de science-fiction. On ne peut pas dire que Rêve de gloire est véritablement un roman de science-fiction, mais c'est vraiment un roman spéculatif. Et là, j'ai trouvé sa musique, il a trouvé sa musique, et je pense qu'à travers ce roman, il a véritablement exprimé le plus charnu, le plus vrai de sa personnalité. On y trouve absolument tous les personnages que j'ai pu rencontrer au cours de la vie de Roland, qui sont exposés sous différentes images, sous différentes figures. Et là, véritablement, j'ai été un roman qui m'a d'abord été un peu difficile à aborder, parce qu'il y a un côté musique répétitive, alors que lui parle beaucoup de musique rock, mais il y a aussi beaucoup de musique répétitive. Et donc, cette espèce d'intoxication permanente qu'on le ressent à travers ces personnages qui reviennent, dont on ne sait pas exactement quels sont les rôles, et qui finalement finissent par composer une fresque extraordinaire d'un moment de sa vie, de ses souvenirs. Et je crois que là, il a véritablement réussi à accomplir, peut-être pas son chef-d'œuvre, mais véritablement une œuvre tout à fait remarquable, complètement exceptionnel par rapport à tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, et même exceptionnel par rapport à tout ce qu'on peut lire à travers la littérature spéculative.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas de la science-fiction, c'est une uchronie. C'est une uchronie, mais en même temps, c'est aussi une utopie. C'est-à-dire qu'en fait, il a construit l'utopie, la Gerois, hein, l'utopie de la réalité telle qu'il aurait voulu qu'elle soit. Un monde de musique, de fêtes, de collectionneurs de disques, enfin c'est tout Roland quoi. On retrouve tout ce qu'on, comme tu disais, hein, ce qu'on a pu lire chez lui, ce qu'on a pu vivre avec lui, ce qu'on a pu rencontrer. Et en même temps, c'est un livre très politique, quoi, du coup. Parce que on y parle beaucoup de politique, on y parle presque autant de politique que de rock psychédélique. Et puis évidemment, il y a l'intrigue, et une dernière chose qui fait aussi qu'on a parfois du mal à rentrer dedans, c'est que c'est un roman polyphonique. C'est-à-dire que c'est un roman où il y a X narrateurs à la première personne. Donc ils ont effectivement chacun leur propre voix, Et effectivement, ils sont tous un peu Roland, mais comme souvent quand on écrit, hein, les personnages sont tous un peu soi-même. Et là, c'est encore plus direct dans la mesure où c'est de la première personne. Et que, évidemment, outre le fait qu'on navigue entre les personnages sans trop savoir qui c'est, surtout au début, on navigue également entre les époques. Et puis on fait des bonds autour de, du nord au sud de la Méditerranée, évidemment. Hein, donc ça complique un peu la lecture. Et je pense que. Il y a effectivement une culture qui est impressionnante quoi, et qui passe très bien. Donc on ne peut qu'être emporté parce que c'est un roman total. Quoi. Il a voulu tout mettre, il a voulu mettre tout ce qu'il aimait, tout ce en quoi il croyait. Quoi. Donc voilà, il faut le dire, c'est tout. Quoi.
Marianne.
Oui.
Pourquoi est-ce que tu prétends
qu'une
chronique n'est pas de la
science-fiction ? Oui.
J'ai pas dit que. J'ai jamais dit que parce que c'était une chronie, c'était bien. J'ai pas dit que la SF c'était pas bien. J'ai dit que l'Uchronie comme la science-fiction. Ou alors, si tu crois au sens large, alors l'Uchronie on fait partie, moi ça me dérange pas. On va pas commencer à troller sur les limites entre les genres, hein. Ça n'a vraiment aucun intérêt.
Ouais, il y a des
pour donner un exemple, Robert Harris, c'est pas de la science-fiction, c'est une chronie. Voilà. Je vois pas. On peut lire que normalement, policier au premier degré, ça y a rien, c'est pas un problème.
Il y a monsieur au chapeau là-bas.
Quelle est la définition de la science-fiction ?
Bref, je voudrais dire que, enfin, par rapport au roman dont on a parlé tout à l'heure, il y a, entre le space opéra, l'anticipation, ou le roman où l'Uchronie succède à une histoire, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous plonge vraiment l'imaginaire là. La réalité qu'ils ont proposée est d'emblée autre. D'emblée, il y a eu un point de divergence. Et d'emblée, on est projeté dans un autre monde. La preuve, c'est qu'évidemment, le jeu qu'on retrouve souvent dans des romans de steampunk ou d'Uchronie contemporain, c'est qu'on réintègre ensuite notre vraie réalité sous la forme romanesque. Et c'est ce qu'il fait avec M. Albert dans Bac de Gloire. Hein. Je ne dirai pas qui c'est, pour ne pas vous gâcher un petit plaisir. Mais voilà. Donc, après, bon, pour ceux qui veulent en lire plus sur l'Uchronie, hein, je vous renvoie au bouquin d'Éric, hein, il n'y a pas de problème. C'est Éric Henriet, hein, c'est la ville.
Voilà. C'est un débat qu'il aurait sans doute pas détesté. Hein.
Mais de toute façon, il peut y avoir des genres dans les genres, c'est pas un problème. Ils peuvent s'hybrider, c'est pas notre problème. Ils peuvent également se séparer, c'est pas un problème. Il y a des bons bouquins, il y a des très mauvais bouquins dans tous les genres. Hein, c'est, voilà. Là, on a un très bon bouquin qui réunit plein de genres, mais qui apparaît plus comme une chronique. Faut pas essayer de faire. Lire un roman qui a un lecteur de Space Opera, par exemple.
Non, c'est
rien.
C'est un roman.
Ah, merci, vous l'avez.
C'est la spéculative fiction, c'est typiquement la spéculative fiction.
J'aurais quelque chose à ajouter, si c'est peut-être pour conclure sur la question du genre, la mousse, c'est vraiment. C'est vraiment pas ce qui est important pour être de gloire, d'autant plus que, comme l'a rappelé Philippe, Roland Wagner maîtrisait un certain nombre de genres et on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. C'est un roman qui est à la fois un roman d'aventure, un roman politique, un roman historique grâce à l'Uchronie qui joue et qui donne vraiment envie au lecteur d'aller voir ce qui s'est passé à quel instant et se pencher sur des détails de la guerre d'Algérie qu'on ne connaît pas ou dont on n'a jamais entendu parler. Donc c'est un roman qui, en plus d'être polyphonique, est complètement polymorphe. Enfin, on peut le lire vraiment de différentes façons aussi.
Quelque chose à ajouter sur Rêve de gloire, les uns les autres ? Non ? Dominique, vous voulez dire quelque chose ?
Je voulais simplement dire que j'en ai parlé avec lui pendant 10 ans à l'occasion de la Constitution. Et tout ce qu'il avançait surtout, c'est qu'il désirait que ce soit un roman juste. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais c'est une préoccupation pacifique. On peut pas se congratuler.
Très bien. Pour finir, est-ce que tous les trois vous avez des chouchous dans cette sélection
en l'appel au vote, c'est maintenant. C'est l'échec, c'est maintenant.
Philippe, est-ce qu'il y a un. Philippe, est-ce qu'il y a un livre parmi les huit qui sont.
Je ne sais pas si on peut véritablement influencer, quoique je n'ai aucune influence. Moi, personnellement, il est évident que je suis pour Merjanian, parce que je pense que c'est un écrivain qui devrait donner dans l'avenir des romans absolument extraordinaires, s'il persévère, mais bon, à part ça, il est évident que Rêve de gloire resterait le couronnement d'une gloire.
François.
Et un grand chef.
Oui.
Ouais, pas grand chose d'autre à dire, puisque j'ai pas lu Mère Jagnon, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de bons livres dans cette sélection. Je pense que c'est à chacun ensuite de se déterminer. Clairement, celui qui me paraît le plus complexe et le plus abouti, c'est Rêve de gloire aussi. Donc, clairement. Mais comme j'ai pas lu Mère Jagnon, Philippe en dit bien, je peux pas comparer.
Lauriane.
Donc moi, je les ai tous lus. Je suis peut-être la seule.
Oui. Bravo.
Merci. Celui que j'ai préféré, c'est aussi clairement Rêve de gloire. À côté de ça, ce que j'ai aimé dans Rêve de gloire, c'est ce côté extrêmement typé, extrêmement à la fois différent et ressemblant de choses que j'avais pu lire auparavant. Et puis juste derrière, j'aurais tendance à mettre Dorée d'émeraude. Pour aussi ce mélange des genres que j'ai trouvé parfaitement réussi.
Est-ce que vous avez un chouchou dans le public? Vous avez le droit de le dire. Alors, il y a un Léviathan qui vient de dire. Bon. Et bien, en tout cas, le vote, donc, samedi.
Jusqu'à samedi. Quoi.
Jusqu'à samedi,
Lyon est... voter. Lyon est là-bas.
Est à côté de Georges.
Et de Marie-Paul. Voilà.
Et merci à vous tous d'avoir écouté ce premier débat.
Si je pourrais rajouter, oui. Pour le vote des nouvelles, il y a 4 livrets qui rassemblent toutes les nouvelles finalistes. Donc s'il y en a que vous n'avez pas lu, vous avez également jusqu'à samedi pour les lire et vous faire un avis sur la question.
C'est samedi matin.
Exactement, n'oublions pas. Vous allez avoir dans quelques instants une nouvelle conférence sur la numérisation des œuvres du XXe siècle avec Sylvie Lenné. Voilà, qu'on va vous inviter à suivre. Merci à tous, n'oubliez pas de voter et merci aux participants.
Merci à toi.